France Musique. Sous les doigts d'Horowitz.
And all the music.
Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado.
Bonjour à vous tous. Je vous propose maintenant le cinquième épisode de notre saga Sous les doigts d'Horowitz. La semaine dernière, nous avons laissé notre Volodia jouissant de son succès, amassant des sommes colossales et se livrant à sa passion des belles voitures, des vêtements et de la peinture. Il habite au Majestic, a engagé un assistant secrétaire compagnon de voyage, fréquente les salons et les célébrités. Et depuis son triomphe de 1928 à New York, il y a 4 ans, son emploi du temps se répète. Tournée en Europe, aux États-Unis, à un rythme effrayant. Certes, il donne toujours des pièces brillantes. Et oui, il continue à offrir des bis hallucinants de virtuosité. Mais il poursuit aussi ses recherches de couleurs. Musicalement, il est arrivé à un niveau de maîtrise que l'on peut parfaitement juger en écoutant les enregistrements de l'année 32. Ne languissons plus. La semaine dernière, je vous ai dit qu'il allait faire une rencontre décisive à la charnière des années 32-33. Toscanini, le grand maestro, l'a contacté pour un concert. Il n'a pas le choix de l'œuvre, ce sera le concerto numéro 5 de Beethoven. Les deux musiciens feront connaissance plus tard, quand le maestro le pourra. Et une invitation de Toscanini, c'est un ordre. Comment le fluet, l'enfantin, le sensible à fleur de peau, Vladimir Horowitz, a-t-il pu s'imaginer travailler avec le célèbre tyran Toscanini? Volodia résume. Toscanini ne voulait pas de vedettes. Il ne les aimait pas. Mais lui, il est idolâtre des puissants du monde musical. Et cela prime sur toutes ses craintes. Peut-être, plus simplement, est-il aussi subjugué par le chef d'opéra, sa gourmandise personnelle. Toscanini a entendu parler de Vladimir par Kreisler. Il a besoin d'un soliste, point barre. Mais il en est une qui en sait un peu plus que son père. C'est Wanda Toscanini.
Je l'ai rencontré lors d'une réception après un concert et il n'aimait pas trop parler avec les gens. Quand il a vu un piano, il s'y est assis et je me souviens qu'il s'est mis à jouer une mazurka de Chopin. Et j'ai été immédiatement fascinée. Et ensuite, je l'ai entendu quand il est venu à Milan ce printemps-là et je l'ai rencontré. Quand mon père m'a dit qu'il avait engagé Vladimir Horowitz, j'ai sauté de joie. Et il m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien, rien, je l'avais déjà entendu. » J'étais déjà fascinée d'abord par son jeu et ensuite par la personne.
«
Horowitz est à New York quand il reçoit un message de Bruno Zerato, le numéro 2 du New York Philharmonic, qui lui demande d'aller voir immédiatement Toscanini à son hôtel afin de préparer le concerto L'Empereur ensemble. Il précise qu'il n'a droit à aucune minute de retard et le prévient. S'il commence à vociférer, ne vous effrayez pas. S'il vous injurie, ne répondez pas. De quoi mettre Vladimir sur des charbons ardents.
Mon père exigeait toujours que les solistes viennent chez lui. Donc, il demande au manager si Horowitz pouvait venir à l'hôtel Astor à une certaine heure. J'étais si nerveuse, j'avais peur que mon père ne l'aime pas, que je suis sortie. Et M. Horowitz avait été terrifié parce que tout le monde lui avait dit que mon père était un ogre. Et précisé, sois ponctuel, parce que sinon il te fichera dehors. Alors il m'a raconté que 10 minutes avant 3 ou 4 heures, il marchait autour de l'hôtel Astor pour être prêt.
Vladimir arrive blême et tremblant. À la porte de la suite, Zerato doit le pousser. Vladimir s'accroche à lui en murmurant « Niet, niet, ne peux pas jouer une note ». Il rentre dans la suite et une conversation parfaitement calme et courtoise s'engage. Toscanini évoque Blumenfeld, le professeur avec lequel Vladimir a étudié en Russie et que le maestro a connu. Puis il lui demande de jouer sa partie piano. Vladimir s'exécute, le chef lui dit « C'est très bon. Maintenant, il faut que je vous demande de me laisser car j'ai beaucoup de travail. Je vous verrai à la première répétition avec l'orchestre. » Encore plus surprenant, pendant les répétitions, il n'y a eu aucune bataille, a raconté Horowitz. Je m'attendais à une tension, une scène orageuse, des hurlements. J'avais peur aussi qu'il me rie au nez. Mais nous nous sommes entendus fameusement. Et la surprise de taille, c'est que Toscanini lui a demandé de jouer avec plus de liberté. C'est dire si Vladimir avait été sage et contrit. Petite précision, ces années 30, les concerts se déroulent autrement qu'aujourd'hui. L'œuvre symphonique se donne en première partie. De ce fait, le soliste est condamné à attendre dans les coulisses. Or, Toscanini avait un chien qu'il ne laissait jamais seul. Le pianiste avait donc d'office la tâche de garder l'animal derrière le rideau. Charmante bestiole, qui ne pensait qu'à mordre et à aboyer. J'imagine notre Volodia dans le noir. La laisse entortillée autour du poignet, repoussant le chien du pied tout en cherchant à le faire taire. Succès complet, avec le chien comme avec le maître. Le concert auquel se presse le tout New York se passe dans l'harmonie la plus complète. La presse remarque à quel point, dans l'Adagio, Toscanini a retenu l'orchestre pour suivre Horowitz. D'autres, à l'inverse, estiment que Toscanini a fait de l'ombre au pianiste. D'autres encore trouvent toujours le soliste trop impétueux, mais le plus important, c'est la conclusion du maestro. « J'aime jouer avec ce garçon ».
Thank you.
Après le concert, il y a l'habituelle réception et Wanda peut enfin s'approcher d'Horowitz. Elle a 26 ans, n'arrête pas de répéter qu'il est le meilleur, collectionne les articles et les photos. Bref, c'est une groupie.
Madge doesn't care. I certainly don't.
Neither do I. All I know is that it's heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
En fait, ce soir-là, on assiste à un double coup de foudre. Wanda pour Vladimir et Vladimir pour Toscanini. Le pianiste poursuit le chef d'orchestre dans le salon, lui joue des mazurkas de Chopin, lui en montre les secrets, il veut lui plaire. Toscanini le regarde avec indulgence. À la fin de la soirée, Vladimir daigne s'entretenir avec Wanda dans un coin de la pièce, en français, car c'est la seule langue qu'ils ont en commun. Le lendemain, Volodia lui envoie sa photo dédicacée pour vous.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre.
Mais qui est Wanda Toscanini? Elle a toujours vécu sous l'autorité de son père, qui voulait faire des génies à son égal de chacun de ses enfants. Ses souvenirs n'ont certainement pas la couleur des jours heureux. Enfant, j'avais peur de lui, non à cause de ce qu'il disait, mais de ses silences. Bien sûr, il arrivait qu'il y ait des explosions à la maison, mais pas très souvent. Quand mon père était fâché, il ne nous parlait pas. Il était très silencieux. Et je crois que pour un enfant, le silence a quelque chose de très effrayant. La petite Wanda étudie le piano, mais lorsqu'elle s'exerce, Toscanini pousse de tels hurlements, elle en tremble tant qu'elle ne peut plus jouer. Elle s'inscrit ensuite à des leçons de chant en cachette, jusqu'à prendre un nom d'emprunt pour que cet essai reste secret. Sauf que la statue du commandeur sait tout. Scandale ! Fin d'un autre rêve pour la jeune Wanda. À la fin du lycée, elle choisit de suivre son père plutôt que d'entrer à l'université. En remplaçant ainsi sa mère, elle se prépare à un autre métier. « On m'a appris à écouter », dit-elle. En fait, elle apprenait le rôle qu'elle allait bientôt jouer pour Vladimir Horowitz. Revenu en Europe, le trio se retrouve à Londres pour un nouveau concert. Et Toscanini porte chance à Vladimir. Dans le Guardian, on lit « le plus grand pianiste vivant ou mort. On eût dit que ses doigts étaient chacun dotés d'un cerveau, tant chaque note était campée avec subtilité. Un tel jeu pourrait bien devoir son pouvoir d'envoûtement à quelques transactions personnelles avec le diable. Car cette fois-ci, c'était plus que du Brahms. Elle se passe en deux temps. D'abord, un petit voyage à Vienne et Rome pour écouter son désormais maître Toscanini en concert, aux côtés de Wanda, bien sûr. Rubinstein en est témoin. À l'époque, il était entiché de Wanda Toscanini, à qui il faisait la cour en s'exhibant dans sa Rolls coupée. Mais bon, ce n'est pas le tout. Vladimir a besoin de vraies vacances, seul et maintenant. Il part en Suisse, à Sils Maria, et descend probablement au palace Le Waldhaus. Nous sommes au regret de ne pouvoir affirmer à 100% que le beau secrétaire privé porte ses valises. Mais il y a de fortes probabilités. Pas de chance, l'irréductible Wanda en profite pour se rendre de l'autre côté du lac Majeur, là où les Toscanini possèdent une villa à Isolino. Embarque sur le lac Majeur donc. Ils parlent mariage, mais craignent le refus de Toscanini et n'ont pas tort. Le patriarche est dubitatif. Il avertit sa cadette. Tu sais très bien que vivre avec un artiste est très difficile. Puis il évoque le tempérament nerveux de Vladimir, sans préciser son inquiétude quant au goût de Volodia pour les hommes, même si à cette époque cela n'empêche en rien un mariage conventionnel. De l'autre côté, on peut imaginer Vladimir lui-même en proie au doute, bien que sa formule pour résumer la situation soit assez lapidaire. Les femmes sont comme des bagages inutiles. Ma fiancée ne sait pas faire quoi que ce soit, sinon me dire si je joue bien ou mal. Et puis, en y réfléchissant, il se dit qu'une femme peut s'occuper de son courrier, de sa logistique. Rubinstein, Vachard, confirme. Horowitz vit que le mariage m'avait réussi. Je pouvais de nouveau me concentrer sur mon travail et j'étais heureux. Quant à épouser Wanda Toscanini, c'était une idée bien caractéristique de sa nature, étant donné son ambition, son goût du lucre et l'idée qu'il avait de sa propre supériorité sur le reste du monde. Il m'avait dit que s'il se mariait, ce serait avec quelqu'un de célèbre. Qu'il dût épouser Wanda plutôt que la fille de Barbieroli ou de Sir Thomas Beecham, voilà qui tombait sous le sens. Ne perdons pas de vue tout de même que Wanda lui apporte un merveilleux alibi pour fréquenter le maestro.
Vergogna! Ti accodi!
Depuis le fameux concert à New York, Vladimir pose une photo de Toscanini sur son piano et clame qu'il est son élève. Ce qui ne peut qu'étonner chacun, puisque la doxa du maestro est que les interprètes ne doivent rien ajouter aux intentions du compositeur. Horowitz approuve, tout en ajoutant sa propre théorie. Il faut jouer comme un peintre qui déploie sa palette de couleurs et de poursuivre ses folles escalades sur le clavier, s'arrêtant parfois, disent les très très mauvaises langues, pour s'adresser à ses mains. « Mon Dieu, quel petit doigt merveilleux j'ai !» et de les embrasser. Resté discret quant à son projet de mariage, notre Volodia tente bien de retenir le secret auprès de ses amis. Et puis, il craque. Oh, juste un tout petit peu, il leur dit qu'il va épouser la fille d'un homme très célèbre. Et puis, deux jours après, il ne peut plus s'empêcher de révéler le nom de Toscanini. Du coup, les rumeurs vont bon train. La presse s'en mêle. On murmure « leur mariage ne durera pas 3 semaines ». On dit que le virtuose russe épouse Wanda uniquement pour se perfectionner dans le répertoire européen avec le grand maître Toscanini. Wanda est de plus en plus butée. Toscanini, de plus en plus agacé, finit par leur proposer de faire un bout d'essai en Angleterre, un séjour en commun en toute discrétion. Volodia prend peur, se ravise, puis obéit. Et pourtant, Wanda sait que je suis un peu pervers, mais de toutes les façons, elle veut faire la tentative. Il y a 3 ans qu'elle est amoureuse de moi. Moi, je ne suis pas amoureux. Je ne peux aimer personne. J'aime le piano. Arthur Rubinstein, encore lui, déclare à propos d'Horowitz que tout le monde le connaissait et l'acceptait comme un homosexuel. L'intéressé, qui a toujours nié l'être, aimait à plaisanter sur le sujet. Il existe 3 types de pianistes, les pianistes juifs, les pianistes homosexuels et les mauvais pianistes. « Volodia met beaucoup de pompe dans sa transcription de la marche nuptiale de Mendelssohn. Elle est peut-être même un peu lugubre, non ? Le mariage est pourtant célébré en décembre 33 en petit comité à Milan. Qu'il soit juif et elle catholique ne pose aucun problème puisque ni l'un ni l'autre n'est croyant. La mariée était en noir et le cadeau du père, et maintenant beau-père, est une plaque d'or où est gravé son portrait. Pas sûr pourtant que la Dolce Vita soit au rendez-vous. Une semaine après, le couple embarque pour une nouvelle tournée de Vladimir aux États-Unis qui n'a rien de sentimental. Mais Wanda, comme une midinette, est ravie parce que...
On s'était à peine mariés en 1934 que ça a été publié dans Vanity Fair.
Bien après, Vladimir, en dépit de sa goujaterie des années 30, dira « Wanda a fait de moi un homme et son père un musicien ». La presse clame immédiatement les bienfaits du mariage. Comme si 15 jours avaient révolutionné le style du pianiste. Quiconque suppose que Vladimir Horowitz est synonyme de puissance et de vitesse n'en aurait pas cru ses oreilles hier soir à Carnegie Hall. Sa prodigieuse technique servait ses aspirations artistiques au lieu de les dominer. Quoi qu'il en soit, mariage ou pas, les tournées infernales organisées par Judson continuent.
Destination ? Monsieur, où voulez-vous aller ?
Mais il y a une note heureuse à ce mariage. Vladimir Horowitz retrouve une famille. Il s'était jusque-là construit un environnement de solitaire aux côtés de ses frères d'aventure Milstein et Piatigorsky, de compagnonnage avec son secrétaire valet, d'amitié mondaine mais sincère avec Steinert, et il était surtout dépendant de Merovitch, à la fois père de substitution et impresario. Les Toscanini, une famille tombée du ciel. À partir du moment où Horowitz rentre dans le clan Toscanini, plus aucun de ses personnages n'est essentiel. Dès 1932, Merovitch sent le vent tourner et essaye de renégocier le contrat de Vladimir qui était resté oral, seulement validé par son père en Russie. Mais maintenant, l'impresario veut le coucher par écrit et le faire signer par le pianiste. Il a des arguments pour justifier ces 20% qui lui sont réservés sur tous les cachets. D'une part, il a aidé Vladimir à faire carrière au moment où il était totalement inconnu. Il l'a fait sortir de Russie, l'a aidé à construire ses programmes, lui a trouvé des concerts en Europe et surtout lui a ouvert le continent américain. D'autre part, il a pris soin du fragile jeune homme. Il connaît ses lubies, sa double vie, s'est signé un contrat, ce dont Vladimir est totalement incapable. Milstein n'est pas du tout d'accord. Merovitch ne nous a pas pris sous son aile car en 1925, il n'avait pas d'aile. Il parlait haut, c'est tout. Nous ne savions rien de rien, nous étions naïfs et nous suivions ses conseils. Au début, nous avions en effet vraiment besoin de quelqu'un auprès de nous et il nous a adoptés et traités comme l'aurait fait une nurse. Mais s'il se croyait notre père, nous ne nous sentions pas ses fils. Vladimir non seulement ne signe pas le contrat de Merovitch, mais commence à signifier une distance en supprimant le nom de l'impresario de ses programmes dès 1933. Arthur Hudson, aux USA, s'occupe des tournées. Et du côté de l'intendance, comme de la sécurité psychologique du virtuose, il y a Vanda maintenant. En 1935, la rupture avec Merovitch est officielle. Et ce n'est pas tout. Horowitz et Rubinstein, à force de se chamailler, finissent par se tourner le dos pour 20 ans. De toute façon, Vladimir n'en a que faire de ses anciens amis. Il habite désormais à Milan. Et au sein du couple Vanda-Volodia, Toscanini règne en maître.
Addio, bel passare, bel sonno, del volo già sono fallene di
Je connais toute la musique, vous voyez, c'est ce que Scriabine voulait.
Est-ce que je peux dire quelque chose? Tu joues mieux que tu ne chantes.
Je peux jouer ça?
Oui, joue, mais s'il te plaît, ne chante pas. Et voilà qu'il se remet à chanter.
Quand ton père chantait, c'était horrible.
Na pizzicato string, pizzicato forte.
L'automne 1934 est une saison bouleversante pour Vladimir. Deux événements viennent percuter le présent. Au bout de bien des années de patience, Simeon Gorowitz vient enfin de recevoir le visa qui l'autorise à venir voir son fils en Europe. Et, alors que la vague du passé submerge d'émotions Volodia, il devient père à son tour. La petite Sonia Horowitz vient au monde. Il n'en parle pas et n'en parlera jamais. L'arrivée de Simeon est vraiment poignante. C'est un homme brisé qui arrive sur le quai de la gare. Le formidable et flamboyant ingénieur est devenu un gratte-papier passe-muraille, triste à pleurer, d'autant qu'il a une terrible nouvelle à annoncer à son fils. Sofia, sa mère, est morte 4 ans plus tôt d'une péritonite. Vladimir devient fou de rage. Si sa mère n'a pas reçu les soins nécessaires, c'était forcément par mesure de rétorsion contre lui. Quant à Regina, sa sœur, qui souhaitait tant accompagner son père, on lui a refusé son visa pour forcer Simeon à revenir. En cas de non-retour, elle serait envoyée dans un camp de prisonniers. Alors Vladimir se sent un devoir d'éblouir son père. Il l'emmène en tournée en Italie, Belgique, France et Suisse. Il veut que Simeon soit fier des succès de son Volodia, qu'il sache que tous ses sacrifices n'ont pas été vains. Steinert, l'ami de Volodia, croise Siméon lors d'un concert. Il raconte « Ma femme et moi allâmes dans les coulisses. Là se trouvait cet homme superbe et grand, avec le visage le plus triste que vous ayez jamais vu, mais empreint d'une grande noblesse d'allure. Quand je lui ai demandé s'il était heureux de revenir en France, il m'a regardé et a dit « Je ne veux pas que ça me plaise ici. » Siméon, c'est que non seulement c'est un voyage unique, mais que c'est la dernière fois qu'il se voit puisque Vladimir a renoncé à sa citoyenneté et ne peut plus revenir en Russie. Ce que ni le père ni le fils n'ont compris, c'est que la fin est encore plus tragique. Quand Siméon regagne la Russie au bout de ses 3 mois de liberté en Europe, il est immédiatement arrêté en tant qu'ennemi du peuple. Il meurt peu après, hébété, fou de douleur, dans un goulag stalinien. La saison qui suit, Vladimir est nerveux, morose. Comment pourrait-il ne pas être torturé de culpabilité ? Il donne au Concertgebouw le premier de Tchaïkovski avec brutalité et beaucoup de fautes, s'étonne son ami, le chef d'orchestre, Nikolaï Malko. Il se souvient qu'au premier jour de répétition, Vanda harcèle son mari au téléphone. Ça agace Vladimir au plus haut point et il se met à transpirer. Le lendemain, il ne se montre même pas à la deuxième répétition. Malko l'appelle, il a oublié. Le concert est raté et il en reste cet enregistrement. Intimement, les fausses notes pleuvent aussi. Ses anciens amis savaient que les excentricités et le snobisme de Vladimir étaient infantiles. Ce n'était pour eux qu'une facette touchante du personnage et ils lui laissaient bien volontiers le premier rôle par affection. Mais une fois dans l'orbite du clan Toscanini, Vladimir devient évidemment le numéro 2. Les réunions de famille peuvent être éprouvantes. Il se tait et il est inaudible de toute façon.
Eh bien, ce ragoût est tout simplement dégueulasse.
Certes, on lui concède le titre de génie. Vanda, qui n'a plus à minauder et révèle maintenant un caractère semblable à celui de son père, lui fait bien sentir qu'il n'est qu'un immigré russe mal dégrossi. Elle exige qu'il cesse de sourire à tout bout de champ parce que, dit-elle, c'est un tic des immigrés russes qui veulent se faire bien voir. Pour les proches de Vladimir, la brutalité d'autocrate de Toscanini aurait pu tuer n'importe qui. Et Horowitz n'avait tout simplement pas en lui les ressources suffisantes pour lutter contre une telle pression. Il se referme, s'attriste, il change. Mais là était peut-être l'enjeu. Grâce à Toscanini, il peut devenir un autre musicien, peut-être plus malheureux, mais plus profond. Est-ce que cela veut dire plus sincère ? Probablement. Ainsi, ces années-là, il élargit son répertoire et fait sensation avec Humoresque de Schumann. Bien plus tard, et plus raisonnablement, Vladimir Horowitz rendra un hommage simple mais convaincant à Toscanini. Il était un homme sans compromis et à ses côtés, j'ai commencé à jouer beaucoup plus droit. Pourtant, leurs relations ne sont pas douces. J'ai réalisé qu'il aimait jouer avec moi parce que je cédais. Quelquefois, je n'étais pas en complet accord avec lui, mais dans ces cas-là, je modifiais mon interprétation. J'étais un type facile. Janvier 35, il fait une tournée aux USA avec Toscanini et le premier de Brahms. Le premier violon, Hedwig Bachmann, se souvient. Le courant sous-jacent qui régnait était bien celui de la peur. C'est peu dire qu'Horowitz suivait le maestro des yeux. Il avait le regard littéralement rivé à la baguette. Le New York Sun. Il faut attribuer le jeu mesuré d'Horowitz à l'œil d'aigle de son beau papa qui a légèrement calmé un style jusqu'ici orageux. Je sais bien que ce vieil enregistrement est difficilement audible, mais faisons l'effort d'imaginer les coups d'œil de Vladimir sur son beau-père. Heureusement pour Vladimir Horowitz, son récital à Carnegie Hall est un immense succès. Il a ajouté à son répertoire les études d'exécution transcendante d'après Paganini de Liszt, pure étincelle horowitzienne, drôle, virtuose. Cela fait 10 ans que Vladimir enchaîne les tournées en Europe, 8 aux États-Unis. Rien que pour la saison 34-35, il a donné près d'une centaine de concerts. Cet été-là, Vladimir fait du vélo avec Piatigorsky et Vanda dans les Dolomites. 162 km dans la journée, s'exclame-t-il devant un journaliste. Mais dès octobre, ce sont les tournées infernales qu'il faut enfourcher. La routine, la routine, la routine. Depuis le temps où j'avais quitté la Russie, je ne m'étais jamais arrêté une seconde. Il n'y avait que 3 mois d'été pendant lesquels je ne jouais pas. Et même à ce moment-là, il m'arrivait encore de jouer. Je ne suis pas un pianiste qui travaille à la chaîne. Enfin, il a de plus en plus le trac s'il arrive trop tôt avant le concert. Eh bien, il est capable de faire demi-tour. Vanda se débrouille pour qu'il n'ait qu'à enlever son manteau pour aller sur scène. Vladimir. À cette époque, j'ai joué certaines œuvres si souvent que je n'arrivais plus à les entendre, même pendant que mes doigts étaient en train de les jouer. Il est vraiment difficile de quitter cette barcarolle de Chopin, mais nous nous rattraperons bientôt et l'écouterons en entier. Le 8 novembre 1935, à Rotterdam, on apprend que le concert de Vladimir Horowitz est annulé pour raison de santé. Celui prévu en janvier à Milan est également annulé, puis toutes les tournées. En fait, depuis quelques mois, Vladimir consulte tous les spécialistes les plus célèbres, leur affirmant qu'il faut l'opérer de l'appendicite, ce que les médecins récusent. N'oublions pas qu'il est persuadé que sa mère en est morte par sa faute. En septembre 36, un médecin complaisant l'opère. Il doit rester alité pendant 10 jours. Son état se complique d'une phlébite, 3 mois d'hôpital. Tous ses engagements sont annulés. Il remet même à plus tard sa tournée américaine de 37. La presse parle de dépression. Communiqué de Vanda. Les rumeurs qui font croire que sa maladie a affecté son esprit ou ses mains sont absolument dénuées de tout fondement. Mais Volodia déprime, sérieusement. Sa nouvelle passion, depuis 1935, est la sonate funèbre de Chopin. Trop jouée, trop souvent. Tiraillée entre l'exhibitionnisme qui fait son succès et la rigueur de Toscanini, il admet. J'avais à réfléchir à beaucoup de choses et puis on ne peut pas traverser l'existence à ne jouer que des octaves. Plus de ses chagrins personnels, Volodia, dont la jeunesse a été saccagée par la révolution russe, voit le spectre d'un nouveau drame politique s'enraciner en Europe. De son foyer milanais, il est aux premières loges. Depuis 1922, Mussolini, dans ce discours de 1935, s'est rapproché d'Hitler. Le musicien juif, Vladimir Horowitz, n'a plus le droit de jouer ni en Allemagne, ni en Italie. Il s'effondre et va se reposer en Suisse. J'en ai peu parlé, mais il est temps d'évoquer le lien particulier de Vladimir avec la Suisse, un havre de paix que l'on ne peut dissocier de ses plus profondes amitiés. Des amitiés qui nous en disent tant sur la poésie et la sincérité du musicien que nous aimons. Dès 34, Vladimir a passé quelques moments profondément apaisants au village de Hertenstein, sur le lac des Quatre Cantons. Or, Rachmaninov habite à 4 kilomètres. Cet été-là, il se voit tous les jours.
Oh, beaucoup, beaucoup.
Vous savez, il composait les variations sur Paganini. On vivait en Suisse, il avait une maison près de Lucerne. Et moi, j'étais à Birkenstock, près du lac, à 10 minutes. Et à chaque fois qu'il avait une nouvelle variation, il m'appelait pour que je la joue pour lui. Il voulait me montrer. Je savais quand ça marchait. Et il a composé toutes les variations pendant l'été.
L'amitié entre Vladimir et Rachmaninov s'est construite lentement. Le compositeur était resté assez distant depuis leur rencontre en 1928, se sentant mal à l'aise avec l'homosexualité et le goût immodéré pour le succès du jeune pianiste. Il écrivait même à un ami. Il s'est fait un grand nom. Il fait des octaves colossales. Après son mariage avec la fille de Toscanini, beaucoup de gens espéraient que son jeu gagnerait en musicalité. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas entendu. Chacun se console en pensant qu'il ne va pas rester marié longtemps. Beaucoup compare Rachmaninov à Buster Keaton, l'homme qui ne sourit jamais. Même Vladimir le présente en disant « c'était un homme très sombre, qui n'était pas d'un abord facile ». Pour Milstein, Rachmaninov est un aristocrate russe, beau comme Gary Cooper, portant toujours le même costume, fumant avec un porte-cigarette en verre, adorant conduire lui-même ses bolides qu'il changeait chaque année. Il a deux passe-temps. L'un est le poker, et il triche. L'autre est l'aviron. Il nous emmenait, Horowitz et moi, pour de longues promenades en bateau, et il s'amusait à s'arrêter au milieu du lac. Debout, il profitait de la vue. Le bateau tanguait terriblement, et j'avais très peur que l'on se noie tous. Rachmaninov essayait peut-être d'apercevoir la maison de Thomas Mann de l'autre côté du lac. Le compositeur vit en Suisse et il est très fier de sa maison blanche baotienne, la fameuse Villa Sénar, qu'il s'est fait construire en 1932 tout près de Lucerne. Voilà bien ce que partagent Rachmaninov et Horowitz, une forme d'humour très particulier. Le pianiste Eugène Istomine rappelle que beaucoup de gens, en contact avec Horowitz, ne comprenaient pas quand il plaisantait. Ainsi, il parlait de Liszt et de Chopin comme si tous deux étaient ses contemporains et ses amis proches. Rachmaninov, lui, s'esclaffait. Mais ce qu'ils partagent avant tout, c'est leur mal du pays. Ils discutent de l'actualité en Union soviétique, alors que Rachmaninov écrit dans son testament qu'il veut être enterré à Saint-Pétersbourg, Horowitz ne veut pas rentrer, affirmant que l'URSS est une prison.
Nous avons la volonté d'éviter à notre pays la honte et l'horreur du fascisme, de contribuer à la libération de nos frères courbés sous le joug du fascisme, de lutter de tout notre cœur, de toutes nos forces pour la défense de l'Union soviétique. Nous avons la volonté d'aller plus loin, jusqu'à la République française des Soviets, que nous ferons triompher sous le drapeau de l'internationale communiste, sous la bannière invincible de Marx, Engels, Lénine, Staline. Car à la barre de notre navire est entre les mains fermes du plus grand des pilotes, de notre cher et grand Staline.
La convalescence de Vladimir est lente, parce qu'il est enseveli sous une chape de plomb dépressive, ce que Rachmaninov a très bien compris. L'effondrement mental du musicien l'affecte d'autant plus que lui-même a connu de grandes crises de désespoir en 1900. Il s'était fait aider par un certain docteur Dahl, un neurologue qui pratiquait l'hypnose. Rachmaninov a dédié son deuxième concerto à ce médecin pour le remercier de l'avoir convaincu de composer à nouveau. Il lui écrit pour lui demander conseil afin d'aider au mieux Vladimir. Et c'est ainsi que le compositeur parle, écoute et rassure Volodya. Non, ses doigts ne vont pas se casser comme du verre. Oui, il va rejouer. Un père pour moi, avoue Vladimir. Si bien qu'à partir de 1937, le pianiste recommence à s'ouvrir au monde. Et là, un autre grand ami va l'aider, Rudolf Serkin. Rudolf Serkin et Vladimir Horowitz se connaissent depuis 1928, mais j'ai pris garde de ne pas trop feuilleter le carnet d'adresses bien rempli des années mondaines et parisiennes de Vladimir, me réservant la possibilité de parler de leur amitié en ces années 36-39, moment où leur lien devient vraiment très émouvant. Vladimir recommence à pianoter un peu. Il se rend à Bâle pour voir Serkin qui y vit. Serkin s'est beaucoup consacré à la musique de chambre, à la rencontre à 17 ans du violoniste Adolf Busch, qui a fondé un quatuor réputé pour être le meilleur quatuor du monde. Rudolf Serkin a épousé la fille d'Adolf Busch. Quand les nazis lui interdisent de se produire avec Serkin, le violoniste préfère quitter l'Allemagne et s'installe à Bâle. Les membres du quatuor le suivent, Serkin aussi. Le quatuor Busch et Serkin représentent tout un monde de sérénité qui fait un bien fou à Horowitz, parce qu'il se retrouve entouré de musiciens du plus haut niveau, particulièrement délicats, tant humainement que musicalement. L'amitié Serkin-Horowitz me semble merveilleuse. Ils n'ont absolument rien en commun, au point que bon nombre d'ignares ont voulu les voir en ennemis. C'était tout le contraire. Serkin est un être modeste. Pour imaginer à quel point ils sont opposés, il suffit d'une part de penser à Volodya se pavanant dans sa Rolls, et d'autre part Serkin, qui se consacrera aux USA à l'élevage de poules et de vaches dans sa ferme du Vermont et à qui l'orchestre de Philadelphie a offert un tracteur. Ils ne sont pas plus du même monde musicalement. Vladimir s'est consacré pendant toute sa jeunesse à la musique russe. Serkin, qui a étudié à Vienne, est un immense interprète du répertoire allemand. Et pourtant, Vladimir Horowitz disait « Si je n'étais pas moi, j'aurais voulu être Rudolf. » Serkin. Je voyais Horowitz presque tous les jours et il était épuisé à cette période. Mais nous avons tout de même fait de la musique à deux pianos. Son déchiffrage était quelque chose de fantastique. Pendant une de ses visites, je l'ai surpris en train d'étudier la fugue de la sonate de Beethoven, la Hammerklavier. C'était d'une beauté incroyable. Horowitz était phénoménal, mais ce n'était pas tellement l'opinion qu'il avait de lui-même. Serkin, dont toute la famille est restée en Autriche et sera bientôt assassinée dans les camps d'extermination, est bien à même de comprendre les sentiments de Vladimir envers sa propre famille. Quand Vladimir rentre à Erstenstein, il recommence à jouer à quatre mains, mais cette fois-ci avec Rachmaninov. À l'époque, Rachmaninov est aussi malade. Il pense être atteint d'arthrose, mais c'est d'un cancer qui va bientôt l'emporter. Or, malgré la douleur, il est en train d'écrire sa troisième symphonie. Rachmaninov fait de grandes balades avec Horowitz. « Si on ne marche pas, les doigts refusent de courir », dit-il. Il l'encourage ensuite à développer un répertoire plus original. Il le pousse à défendre son troisième concerto et lui note des coupes possibles s'il le souhaite. C'est une amitié tendre. Horowitz le reconnaît. « Rachmaninov était le pianiste le plus affectif que j'ai jamais connu. Il me disait « Je suis toujours en train de pleurer, je suis trop sentimental ». Ça s'entend dans sa musique et il jouait comme ça. Ainsi, de bons conseils en quatre mains, petit à petit, Rachmaninov et Serkin lui font envisager de reprendre le métier. Octobre 37, Volodia donne un récital en famille. Juillet 38, il écoute la radio chez lui et entend qu'on annonce la disparition de l'un des plus célèbres pianistes qui ait jamais existé, un certain Vladimir Horowitz, né à Kiev en Russie. Ses interprétations de Chopin et de Liszt restent gravées dans la mémoire de tous ceux qui l'ont entendu. Ces deux dernières années, Horowitz souffrait d'une maladie incurable. Le défunt était le gendre de Toscanini. Vanda dément. Mais la meilleure réponse est... le concert de charité qu'il donne avec le Quatuor Busch, concert au profit des enfants de réfugiés à Zurich. Lui conseille, pour ne pas succomber à la tension des grands concerts, de jouer dans les petites villes où il n'est pas connu pour tester sa résistance physique et psychologique. Ce sera à Monte-Carlo, Marseille, Lyon, avant Paris en hiver 38-39. Paris le rassure en tout cas. Le soir de son concert, il y a un embouteillage devant la salle Pleyel. Il est resté populaire. L'été 38, Toscanini a inauguré ce qui va devenir le Festival de Lucerne. Il a constitué un orchestre avec les artistes qui fuient le nazisme, ceux qui ne peuvent plus jouer ou ne veulent plus jouer à Bayreuth ou Salzbourg. Serkin et les Busch y participent dès la première année. Viendront aussi, en 39, Mengelberg, Casals, Feuermann. Quant à Vladimir, il se lance à cœur perdu dans le deuxième de Brahms avec Toscanini. Le dernier jour du festival, les Allemands envahissent la Pologne. « Pour Vladimir, l'étau se resserre. Il ne peut presque plus donner de concerts dans l'Europe fascisante. Toscanini a refusé de diriger l'hymne mussolinien à la Scala. Son domicile est surveillé, son téléphone placé sur écoute. On lui retire son passeport. Devant le scandale, on le lui rend. Voilà, il ne reste plus que quelques jours à vivre en Europe pour la tribu Toscanini. Rachmaninov a fermé définitivement à clé sa villa de Sénart. Les Bush et Serkin font leurs bagages. Début septembre, Vladimir et les Toscanini embarquent, tristement, pour New York. Ne nous quittons pas ainsi. Restons sur la douce amitié entre Serkin et Horowitz et comparons leurs jeux afin de comprendre leurs ressemblances et leurs dissemblances. Eugène Istomine, qui les a écoutés tous les deux en concert, remarque une différence très surprenante quant à leur attitude au piano. De nombreux pianistes donnent plus à voir leur interprétation qu'à l'entendre. Regardez comme je ressens profondément les émotions de cette œuvre. Et souvent, il n'y a pas grand-chose qui passe dans leur jeu. Malgré tout, quand on allait entendre Horowitz ou Serkin en concert, l'effet visuel était important. J'ai été frappé, en allant écouter Serkin, par la façon dont il montrait presque involontairement ses émotions. Inversement, quand on voyait Horowitz, avec cette incroyable richesse de couleurs et de dynamique, il ne bougeait quasiment pas. J'ai choisi de vous faire écouter la sonate au clair de lune de Beethoven, Rudolf Serkin, pour commencer. La suite de la même sonate par Vladimir Horowitz. Voilà, c'était le début de la sonate au clair de lune, tout d'abord par Rudolf Serkin et ensuite par Vladimir Horowitz. Tout à l'heure, nous avons écouté un bien court extrait de la barcarolle de Chopin. À grand regret, nous l'avons quitté, alors je vous propose ici d'en écouter la suite.
Thank you.
C'était la barcarolle en fa dièse majeur, opus 60 de Chopin par Vladimir Horowitz. On se quitte pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine à 11h pour la suite des aventures de Vladimir Horowitz. Et si vous avez raté un épisode, vous pouvez podcaster notre série Sous les doigts d'Horowitz sur francemusique.fr. C'était une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil. Réalisation, Christine Amadou. Voix de Vladimir Horowitz, Laurent Lederer. À la technique aujourd'hui, il y avait Alain Joubert. Bonne semaine à tous et à samedi prochain.
À réécouter sur francemusique.fr.